Très chers frères et sœurs dans le Christ, je veux vous entretenir aujourd'hui de ce que nous appelons l'oikos, selon un mot grec contenu dans les Actes des Apôtres, qui désigne notre réseau de relations humaines que le Seigneur nous donne à évangéliser. Une étude attentive et une analyse réfléchie des Actes des Apôtres nous fait découvrir le mode d'évangélisation proprement chrétien tel qu'il a été vécu dès les premiers temps de l'Église. Nous les chrétiens, nous n'avons rien à regarder ni à envier du côté des témoins de Jéhovah ou des autres sectes qui font du prosélytisme. Nous les chrétiens, nous témoignons de Jésus à ceux que Dieu nous a donné de fréquenter et avec lesquels nous avons déjà noué des relations d'amitié. Dieu ne demande jamais l'impossible. Les premiers évangélisateurs, tels saint Paul et saint Barnabé, étaient de bons juifs pratiquants qui ont commencé systématiquement à aller vers les juifs en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans les synagogues des villes du pourtour méditerranéen. Et quand ils ne trouvaient pas de synagogue, ils cherchaient le sabbat à proximité des points d'eau où les juifs se réunissaient, en ce cas en l'absence de synagogue. Et c'est seulement après leurs échecs ou leurs déconvenues vis-à-vis des autres juifs qui se tournaient alors vers les païens, presque à regret et à contre-cœur au début. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, à Paphos, dans l'île de Chypre, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Nous aussi, nous irons spontanément vers ceux qui sont déjà baptisés et qui semblent un minimum croyants et pratiquants. Mais comme pour les premiers chrétiens, l'Esprit Saint nous montrera de plus en plus des hommes et des femmes de toute origine et de toute condition qui ont déjà été préalablement travaillés par la grâce de Dieu et qui ont déjà faim, sans le savoir, de ce que nous leur apportons. L'important pour nous n'est pas de chercher à faire plaisir à Jésus en décidant d'avance que telle ou telle personne doit se convertir, mais bien plutôt de reconnaître qui Jésus nous montre à évangéliser. Et parfois, il apparaît que ce ne sont pas du tout ceux que nous imaginions au début. Jésus est libre de toucher qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et en même temps qu'il fait l'essentiel du travail intérieurement par l'action de l'Esprit-Saint, il nous associe souvent à son œuvre en nous demandant de compléter extérieurement ce qu'il a déjà si bien entamé. Et cela est vrai à toutes les étapes d'un cheminement vers la foi. Nous avons aussi bien à semer les premières graines de la charité et de la parole de Dieu dans des cœurs, qu'à recueillir le fruit mûr, c'est-à-dire les âmes toutes prêtes à croire en Jésus. Alors comment approcher les âmes de notre oikos? En les aimant d'abord comme Jésus. Dans la Bible, au livre de la Genèse, après le meurtre d'Abel par Caïn, Dieu demande à Caïn « Où est ton frère ?» Et Caïn a cette réponse atroce « Qui m'a établi gardien de mon frère ?» Bien au contraire, nous, les enfants de Dieu, nous nous sentons concernés par nos frères, par tout homme que nous rencontrons et que Dieu appelle à devenir notre frère s'il ne l'est pas encore. Évangéliser son oikos, c'est d'abord croire qu'aucune de nos rencontres n'est due au hasard. Évangéliser son oikos, c'est d'abord connaître et aimer tous ceux que je côtoie. C'est croire que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Évangéliser son oikos, c'est m'intéresser humainement à chacun d'eux. C'est développer suffisamment les échanges avec eux pour connaître ce qui leur plaît et ce qui leur déplaît, les joies et les peines qui remplissent leur cœur. C'est partager tout ce qu'il est possible de partager avec eux. Une fois que je me serai intéressé à eux, passionné pour eux, alors j'aurai découvert que le Seigneur me fait le très grand honneur de partager au moins un peu son regard plein d'amour sur chacun d'entre eux. Nous serons missionnaires dans la mesure même de notre bienveillance a priori pour ceux que nous rencontrons. Un vrai missionnaire est par définition plein de bon esprit, sans rien enlever à sa lucidité. Très concrètement, au sein de la cellule, chacun établit d'abord par écrit la liste nominative des membres de son oikos. Cela peut aller de 30 à 150 personnes. Au cours de la réunion, cet ensemble de l'oikos comprend quatre grandes parties. Premier quart, ce sont les membres de ma famille, mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes cousins, mes cousines, mes proches, tous ceux qui m'ont été donnés par Dieu par les liens du sang. Deuxième quart, mon milieu professionnel, tous ceux que je côtoie au travail, mes supérieurs, mes collègues, mes subalternes. Troisième quart, mes amis d'élection, ceux que j'ai choisis, ceux que je vais voir chez eux ou que j'invite chez moi. Dernier quart, toutes les personnes qu'il m'est donné de côtoyer régulièrement. Ma coiffeuse avec laquelle j'échange, mon dentiste, la caissière au supermarché, mon médecin, ma voisine, tous ceux que je côtoie assez régulièrement, avec lesquels j'ai un minimum de contact. Au cours de la réunion, dans la prière d'intercession, toute la cellule va présenter à Dieu tous les membres de tous les oikos, sans les nommer en particulier, bien sûr, à moins que l'un ou l'autre des membres de la cellule veuille en citer un ou une en particulier. La prière finale pour l'oikos et de notre Père sont dites tout spécialement pour ces personnes à évangéliser. En dehors des réunions de cellules, les messes et les temps d'adoration eucharistique sont des moments spécialement efficaces pour présenter ces hommes et ces femmes à Dieu et pour obtenir pour eux de grandes grâces, de lumière et de force. En dehors de la prière, je cherche à fréquenter les personnes de mon oikos, à échanger avec eux, à mieux les connaître pour mieux les aimer. Je me mets volontiers à leur service. Je vis une charité très concrète et très régulière envers eux. Dans mes discussions avec elles, je n'hésite pas à aborder les questions fondamentales de l'existence, le sens de la vie, de la mort, de l'amour, la valeur et la richesse profonde de nos actes, le sens des événements. Et quand l'occasion s'en présente, sans jamais la forcer, j'exprime très simplement mes convictions de foi. Je témoigne non pas de grands principes, mais de réalités que j'ai moi-même expérimentées dans ma relation à Dieu. Et ces témoignages ont une force irremplaçable pour toucher les cœurs. Et j'attends. Cela peut surprendre, mais il est indispensable de savoir attendre dans l'évangélisation, car le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Dieu est infiniment plus pressé que nous de toucher les cœurs, et pour cette raison même, il est donc infiniment patient, parce que seul compte pour lui une réponse pleine et entière, vraie et libre. À nous donc de respecter infiniment le travail de la grâce de Dieu dans une âme, comme dit le pape François, à savoir ôter nos sandales devant la terre sacrée de l'autre, pour reprendre Dieu qui s'adresse à Moïse lors de l'épisode du buisson ardent, au livre de l'Exode. La pédagogie de Dieu est toujours plus fine et délicate que nos attitudes souvent semblables à celles d'un éléphant dans une cristallerie. J'attends une demande, une quête, un appel, un cri de la part de ceux pour qui je prie et j'offre. À un moment donné, touché par l'Esprit Saint, ces personnes devraient m'interpeller sur ma foi, sur la qualité de ma relation au Christ. Et c'est là qu'il m'a donné du temps. C'est le moment où